Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans Une Heure en Série, saison 2, épisode 4, Une Heure en Série, l'émission qui décrypte et analyse toute l'actualité des séries télé, toutes chaînes confondues, et vous permet, face à une offre toujours plus riche, de ne pas vous tromper et de regarder les séries qui valent vraiment le coup. Ce soir, nous parlerons Enfance Martyre et Enquête Anxiogène avec Laetitia sur France 2, Île Mystérieuse et Péché des Parents dans The Third Day sur OCS, Famille décimée et présumée coupable insaisissable dans Un Homme Ordinaire sur M6. Bref, un programme pour le moins sombre, mais éclairé par le talent de nos intervenantes et intervenantes de ce soir.
Une heure en série, Xavier Le Herpeur.
Et justement avec nous ce soir, Marjolaine Boutet du magazine Phosphore. Bonsoir Marjolaine.
Bonsoir.
Ariane Alarcosette, Positif, Freshmania, vous cumulez, pardon, mais on est toujours ravis de vous accueillir. Bonsoir Ariane.
Bonsoir Xavier.
Et Benoît Lagan, que vous retrouvez le vendredi dans le 5-7 de Mathilde Munoz et également sur Télématin, car ça n'est pas simplement une voix, c'est aussi un physique.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir Benoît. Alors, pas de courrier ce soir, puisque demain, dans la nuit donc de dimanche à lundi, seront remis aux États-Unis les Emmy Awards, qui récompensent la création télévisuelle, entre autres, de la télévision américaine et parfois britannique. Je vous ai demandé simplement, en un titre et un mot, un adjectif, une phrase, de me dire parmi les catégories meilleure série télévisée dramatique, meilleure série comique ou meilleure série limitée, la série qui pour vous mériterait les honneurs. Marjolaine.
Ah, c'est terrible. Je vais choisir la catégorie meilleure série limitée où je les aime toutes sauf une, mais j'aimerais bien voir triompher Unbelievable parce que c'est porté par des femmes et c'est une histoire extrêmement touchante qui est en résonance avec le thème de ce soir.
Ariane Allard.
Bon ben voilà, donc moi c'était Unbelievable aussi. Je pense que c'est une série absolument exceptionnelle, mais vraiment quoi, aussi bien au niveau de la réalisation que du sujet, du traitement et des comédiennes. Et d'ailleurs, elles sont toutes nommées et je trouve ça absolument normal.
On en avait parlé ici même, ouais. Ça avait été effectivement un coup de cœur unanime. Benoît.
Mais moi, je vais rester aussi dans les séries limitées. Pour moi, c'est Mrs. America parce que je trouve que ça permet de comprendre l'Amérique de Trump aujourd'hui d'une autre manière. Et c'est voilà, c'est brillamment fait.
Avec un peu de recul historique.
Avec un petit peu de recul historique, voilà. Et c'est de bonne facture et c'est vraiment une série qui a été haletante et puissante et intéressante à tout point de vue.
Eh bien, nous verrons demain si vous êtes des pronostiqueuses ou un pronostiqueur émérite. Les Emmy Awards qui seront retransmis donc sur Série Club, une soirée qui sera animée entre autres par notre collègue François-Pierre Pélinard-Lambert du Film Français. Et on commence tout de suite avec le premier débat de la soirée, Laetitia sur France 2, une mini-série de 6 épisodes diffusée en 2 parties, soit le lundi 21 et le lundi 28 septembre. Nous sommes en janvier 2011, Laetitia Perret, une jeune adolescente vivant avec sa sœur dans une famille où elles ont été placées quelques années auparavant, est retrouvée morte. Un fait divers sordide qui émeut la France entière et passionne les rédactions des télés avides de drames et de sang. Le coupable est rapidement interpellé, un homme instable, un prédateur multirécidiviste qui devient le symbole des manquements de la justice en France. Mais entre un père violent, une mère fragile et un père adoptif autoritaire, le calvaire de Laetitia n'avait-il pas débuté bien avant ce drame ?
Pourquoi elle a suivi ce type ? C'est pas seulement une question de hasard. Un drame comme celui-là, il y a des raisons à ça. Mais qui viennent souvent de très très loin.
Adapté du roman d'Ivan Jablonka, Laetitia ou La fin des hommes, qui avait été couronnée en 2016 par le prix Médicis et qui est paru aux éditions du Seuil, cette fiction, entendez évidemment fiction avec beaucoup de guillemets, est écrite et réalisée par Jean-Xavier de l'Estrade. On lui doit entre autres le remarquable documentaire Un coupable idéal, qui lui avait valu en 2002 l'Oscar, quand même, c'est pas rien, du meilleur film documentaire, ainsi que les séries Trois fois Manon, puis Manon 20 ans. Casting impeccable, faut quand même le dire, dans des rôles qui sont pour le moins compliqués. Marie Collomb dans le rôle de Laetitia, Sophie Breyer dans celui de sa sœur Jessica, elle est formidable en plus. Un rôle quand même un peu en retrait et elle l'incarne magnifiquement. Et puis également Kevin Azaïs, Sam Kerman, Clotilde Monet ou Noam Morgenstern. Qu'en avez-vous pensé ? Je sais que quelqu'un a un immense coup de cœur, mais je crois qu'il est partagé par tous et par toutes. Ariane.
Ben oui, moi je pense que c'est vraiment la série de la semaine. D'abord, personne n'a oublié cette affaire. Et donc, quand on pénètre et qu'on rentre dans cette série, je pense qu'on est un peu inquiet. Or, il n'y a aucune raison de l'être. Moi, je le dis d'emblée, je pense que le traitement de ce sujet qui est quand même hyper sensible, et notamment parce que la famille, et notamment parce que la jumelle est toujours là, elle est toujours présente. Donc, il faut aussi pensé à ça, c'est une histoire vraie. Son traitement, pour moi, il est irréprochable. Je pense que ça tient bien sûr aux qualités du réalisateur. Vous l'avez dit, Jean-Gabriel Lestrade, c'est quelqu'un qui s'est toujours distingué par sa délicatesse et par sa sensibilité. Et c'est toujours intéressé en plus à la mécanique judiciaire, donc c'est quelque chose qu'il connaît bien, qu'il maîtrise. C'est un cinéaste engagé et délicat, ce qui est quand même parfois paradoxal, mais pas dans son cas. L'autre chose que je trouve très intéressante, moi, et c'est très judicieux, c'est qu'il s'intéresse pas uniquement aux faits divers, au risque de tomber dans le glauque et dans tout ce qui, voilà, ça agite plein de passions, le fait divers. Non, il s'intéresse à la vie entière de la jeune Laetitia. La vie trop courte, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il nous raconte sur cette vie? Ben, il nous raconte qu'en fait, tout ou presque la conduisait à ne pas avoir les armes pour se protéger de ce genre de personnage. Parce que bien sûr que quand nous on regarde, on se dit mais c'était évident, ce type il est malsain, il est fou, il est psychopathe, sauf qu'elle ne peut pas le voir. Et toute cette histoire-là nous raconte ça justement, nous raconte que Laetitia, dès l'enfance, puisqu'elle a été en butte à un père violent, qui a violé sa mère et qui a été condamnée pour ça, et puis bon, ça continue, je vous donne pas tous les détails parce que mes camarades vont venir dessus, jamais cette jeune fille n'a été ni protégée, ni respectée, et par personne. Et c'est ça que ça nous raconte. Moi, je trouve ça absolument bouleversant parce que c'est d'une justesse. Il n'y a aucun effet, ni de réalisation, ni de manche, ni de dialogue. Les comédiens sont formidables. Vous avez eu raison de les citer. Moi, je voudrais insister parce que je trouve que ce que fait Noam Morgenstern, qui est sociétaire de la Comédie Française, par ailleurs, que je ne connaissais pas.
Dans le rôle de l'assassin.
Qui est dans le rôle de l'assassin de Tony Meillon, il s'appelle. Je trouve ce qu'il fait est absolument sidérant. Moi, j'ai jamais vu ça dans une série française.
Benoît, on a parlé donc de fiction, il faut dire que tous les personnages sont cités, hein, il n'y a pas renommé pour le besoin comme ça de la série télé, mais il y a un vrai travail de fiction, d'écriture, on change de période, il y a des flashbacks, et on retourne dans le passé de Laetitia et de sa sœur, ce qui est quand même une force aussi déterminante dans la réussite de la série.
Oui, c'est tout le savoir-faire de Jean-Xavier de Lestrade, documentariste mais passé à la fiction depuis longtemps, tout le travail de Yves Jean-Blanca, historien qui a fait un travail en sciences sociales important avec son livre, mais qui passe aussi par la fiction pour pouvoir raconter certaines choses du personnage et de ce qui lui arrive, et avec donc une utilisation de l'archive, une utilisation des images d'actualité qui se glissent comme ça dans la fiction, comme ça le réel il est là, ce qui libère totalement le reste de la fiction pour être une pure fiction, mais une pure fiction extrêmement bien documentée et très vrai. Il y a par exemple cette scène que je trouve fabuleuse dans le dernier épisode où le gendarme et le juge parlent de la violence qu'a subie Laetitia tout au long de sa vie, cette violence masculine. Là, c'est vraiment la parole de Jablonka dans le texte, mais qui est incarnée par ces deux personnages. Et vu que c'est deux hommes qui parlent, il y a la greffière juste derrière qui tourne légèrement la tête et qui les regarde. Et ça s'arrête là. Et ils continuent leur discours. Comme si cette présence masculine ultra permanente, et même jusqu'à l'écriture de cette série, signée par Antoine Lacomblaise et Jean-Xavier de Lestrade, donc deux hommes, adaptée d'un roman d'un historien, encore un homme, et du coup, tous, mais des hommes qui ont pris acte de toute cette histoire, et c'est ce qui rend cette fiction extraordinaire, et qui pose surtout une question politique, comme rarement une fiction française pose en prime time sur une chaîne grand public. C'est une série engagée politiquement, voire anti-sarkozyste, clairement. Et une série française aujourd'hui qui se permet ça, bah, c'est très rare.
Il faut juste expliquer pourquoi c'est anti-sarkozyste. C'est-à-dire que c'est une affaire qui a été manipulée, instrumentalisée à l'époque par les politiques. Juste, voilà.
Justement, c'est le moment de donner la parole à Marjolaine qui boue de son coin.
Oui, c'est très vilain. Points.
Je veux parler. Eh bien, parlez.
C'est très vilain.
Bah, c'est un débat, en fait, Marjolaine.
Xavier. Oui, justement, j'aimerais y participer. Et effectivement, c'est une série sur la domination masculine, la violence faite aux femmes et aux enfants. Mais comme le dit très justement Benoît, c'est une série qui n'est pas manichéenne, avec des hommes qui seraient tous méchants et des femmes qui seraient toutes décentes. Parce que ça montre bien le caractère social systémique de la domination masculine, du patriarcat, mais aussi que il y a certains hommes qui ont pris conscience de ça et qui luttent contre ça. L'enquêteur et le juge sont absolument fantastiques, et il y a des femmes qui sont complices de cette domination. On voit aussi qu'elles en profitent par opportunisme. Il y a la mère de la famille d'accueil, il y a l'agente de l'aide sociale à l'enfance qui a cette espèce de volonté de bien faire et qui est aussi dans l'aveuglement volontaire. Donc c'est une série qui a un côté social et ça s'appuie donc sur le travail de l'historien et écrivain Yvan Jablonka qui remet ce fait divers dans la société du début des années 2010 mais qui est encore la nôtre avec l'instrumentalisation des faits divers par les politiques et Nicolas Sarkozy l'a fait mieux que personne mais ça continue encore aujourd'hui. La grève des magistrats qui en a résulté parce que là encore il est question de services publics qui n'ont pas l'argent pour fonctionner normalement et puis bien sûr au centre la spécialité de Jablonka qui est le sort des enfants placés donc ces questions des familles d'accueil qui protègent ces enfants. Et enfin, dernière chose, moi je voulais aussi rendre hommage à Marie Collomb, qui interprète donc Laetitia, qui est absolument lumineuse, et pour moi qui est une sorte de fille cachée de Jane Birkin et Béatrice Dalle, et qui rend là encore cette série d'autant plus émouvante. Moi ce que j'ai beaucoup aimé dans la réalisation de Jean-Xavier de Lestrade, c'est les scènes où on la voit vivre, où on la voit avec ses copines, qui sont d'une justesse, d'une fraîcheur, et a posteriori, évidemment, qui provoquent l'émotion et serrent la gorge. Donc c'est une réussite vraiment à tout point de vue. Et je terminerai en conseillant, pour ceux qui veulent aller plus loin après la série, d'écouter l'épisode 26 du podcast « Un podcast à soi » sur Arte Radio.
Très bien, excellent conseil. Nous avons donc parlé de Laetitia sur France 2. Coup de cœur unanime de la rédaction d'une heure en série diffusée à partir du lundi 21 septembre. À noter que le lundi 28 septembre, à l'issue de la diffusion des trois derniers épisodes, aura lieu un débat Laetitia 2. La violence pour destin et que ce débat sera animé par Julien Pugier.
Jamais su bien lire les astres du futur. Alors je te dis ces choses, ce mot dont je suis sûr. Mon amour, tes coups d'éclat, tes quelques coups de clé ont pu me desserrer, enfin libérer le cœur. Être au cœur avec ce que je ressens, avec ce que tu es. J'suis tout le temps intéressé par les choses que tu me fais. Genre, l'hiver à l'envers. Mon âme sera vraiment belle pour toi. C'est l'amour, en tout cas ça y ressemble. Est-ce que l'intimité te fait flipper plus que moi? Est-ce que la magie du monde te remplit plus que moi? Est-ce qu'on sera team divorce ou pas? Est-ce qu'on se donnera de la force ou quoi? Est-ce qu'il faudra souffrir pour se tomber dans les bras? Est-ce qu'il faudra retenir nos kamehameha? Et faire encore une fois l'été à l'endroit. C'est l'amour, en tout cas ça y ressemble.
Mon âme sera vraiment belle pour toi.
Terre Noire, mon âme sera vraiment belle pour toi, un titre extrait de leur premier album sorti fin août, intitulé Les Forces Contraires. Terre Noire est un duo composé de deux frères, Raphaël et Théo Herrerias. Le nom de ce groupe vient du quartier de Saint-Étienne où ils ont grandi. Pour le duo, je les cite, la musique, l'art, la création font du bien, soignent et permettent de donner du sens à un moment où il n'y en a plus, on en a terriblement besoin.
France Inter. Série.
Petit conseil littéraire en écho à cette idée du rapport étroit qui peut exister entre fiction et réalité et qui est l'un des thèmes de cette émission. Je vous conseille de découvrir Noir sur Blanc de Junichiro Tanizaki aux éditions Piquier Poche, signé en 1918 par un des plus grands auteurs japonais du XXe siècle. Ce roman pourtant brillant était resté étrangement inédit chez nous durant un siècle. Exhumé donc il y a 2 ans par les éditions Piquier et désormais disponible depuis quelques jours en version poche, ce polar tout en faux-semblant démontre, s'il en était besoin, la folie d'inspiration de Tanizaki. Noir sur blanc, c'est l'histoire. Alors suivez un petit peu, c'est très simple, mais on peut avoir l'impression que c'est compliqué quand je vais le résumer. C'est donc l'histoire d'un écrivain qui vient de rendre son manuscrit à son éditeur, un polar dans lequel il imagine un crime parfait, crime dont la victime serait un de ses collègues, coupable à ses yeux d'être un homme terne et insipide. J'ai des noms. Mais s'il a pris soin de changer justement les noms dans les premiers feuillets, un instant d'inattention lui a fait livrer une version avec le véritable nom de la victime. Convaincu dès lors que son récit pourrait inspirer un véritable assassin, notre héros cherche à se créer un alibi parfait pour se dédouaner du meurtre qui n'a toujours pas eu lieu. Et quand il croit y être parvenu, quelle n'est pas sa surprise d'apprendre que sa cible a été véritablement assassinée. En quelques 300 pages vénéneuses et enfiévrées, Tanizaki plonge son héros miroir ainsi que le lecteur dans une spirale où le réel est perturbé, contaminé et anéanti par la fiction. Un jeu de miroir délétère et pervers pour un hommage fétichiste et vertigineux à l'écriture romanesque. Noir sur blanc de Junichiro Tanizaki aux éditions Piquier Poche. Deuxième débat, The Third Day. Je me suis un petit peu entraîné, hein.
Very good.
The Third Day sur OCS en H+24, c'est-à-dire que vous pouvez découvrir chaque semaine un nouvel épisode au lendemain de sa diffusion américaine. La diffusion a commencé le 15 septembre. Nous n'avons vu que 5 épisodes sur les 6, je tiens à le préciser. Dans cette mini-série britannique produite pour HBO, le personnage principal est une île. Un lieu peu avenant à la nature sauvage, isolée de la terre ferme et qui replie ses griffes sur quiconque ose s'y aventurer. Une île coupée du monde où vivent des autochtones bourrus, inquiétants pour ne pas dire dangereux, qui importaient de curieuses coiffes animales, bon, ça encore Benoît le fait régulièrement, et chassaient les tranchées venues perturber un quotidien insulaire, fait de croyances ancestrales et de religiosité exacerbée. Au cours du premier chapitre de Third Day, là aussi c'est un peu compliqué, chapitre intitulé Summer, Jude Law, alors là rien que le nom de Jude Law fait se pâmer notre réalisatrice Marie-Annick Rimbaud. Jude Law sauve une jeune fille de la pendaison, la raccompagne chez elle sur cette fameuse île dont il ne parvient évidemment pas à s'échapper. La solitude et la paranoïa galopante vont l'entraîner au bord d'une folie faite de culpabilité délétère et de visions étranges. On ne précisera pas quelle est la nature de ces visions étranges. Dans la seconde partie, chapitre 2, intitulé Winter, les 3 derniers épisodes donc, c'est Naomi Harris qui se rend sur l'île pour y passer quelques jours de vacances avec ses filles. À son tour, la voici victime de ce lieu machiavélique.
There's something special about this place.
Long way from home on such a day. Times have been hard. We've been through some bad things. But helping people is what this place is all about.
Thank you. But I can't stay.
But you need to come with us.
Before that causeway closes, and you have to stay here in paradise forever.
You can't leave.
Excuse me?
Lumière saturée, anamorphose de l'image, hyper gros plan, Third Day multiplie les effets un peu voyants pour distiller un climat insolite et anxiogène. Une série produite par Brad Pitt, qui s'est bien gardé de l'interpréter d'ailleurs, créée par Félix Barrette et surtout Dennis Kelly, l'auteur il y a quelques années d'un chef-d'œuvre de la série télé, j'ai nommé Utopia. On n'est pas tous d'accord autour de cette table sur la catégorisation chef-d'œuvre. Mais néanmoins, à côté de Jude Law, alors à part Marie-Annick, il y a également Marjolaine qui se pâme à chaque fois que je prononce Jude Law et Naomi Harris, la nouvelle et formidable Moneypenny de James Bond retrouve Emily Watson et Paddy Considine, une série qui n'est pas sans rappeler, parmi les nombreuses références, Le Prisonnier, ainsi que le film de Wicker Man avec Christopher Lee. Ah, mais grande question, les intentions et les références suffisent-elles à assurer la réussite du projet deux points d'interrogation, de manière un petit peu ironique, parce que je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup aimé cette série. Je vais quand même me réfugier du côté de la presse pour Télérama. Un savoir-faire roublard donne à la série des allures de contes horrifiques, volontiers grand-guignolesques. Je trouve que c'est assez juste. Et pour les arts occultibles, un cauchemar déconcertant aux contours obscurs. Inquiétant, obscur, étrange, Benoît Lagan, bien sûr.
Alors, une série intrigante, certes. Voilà.
Tout pour, oui, ça, avec c'est moins qu'on puisse dire.
Avec un découpage intéressant, d'où la frustration de ne pas voir ce sixième épisode. Je laisse teaser, Marjolaine nous expliquera pourquoi on n'a pas pu voir le sixième épisode. C'est pas inintéressant comme thématique, surtout quand on connaît la Grande-Bretagne à l'heure du Brexit, de se dire que ces gens qui vont sur une île et puis qui restent sur cette île et qui se coupent du reste du monde, en fait, voilà, il y a quelque chose comme ça qui, moi, m'a pas, que j'ai trouvé plutôt intéressant. Sauf que le problème, c'est que ces thématiques-là sont pas réellement abordées. On préfère se planquer derrière quelque chose en lien avec la religion, le troisième jour, donc le religieux, avec ces gens qui se font des signes de croix à l'envers, avec des choses assez étonnantes et plutôt rigolotes, de voir ce sel posé comme des tapis autour des lavabos, par exemple, ou ces feuilles mortes. Enfin bon, il y a des trucs un peu étranges comme ça. Tant que la série, et notamment le premier et le quatrième épisode, restent dans l'installation...
Ils sont respectivement les premiers épisodes de chaque chapitre.
Voilà, c'est ça. Tant que ces épisodes se jouent, se suspendent un peu à la quatrième dimension, moi j'aime bien. C'est assez léché en termes de réalisation. Le duo Lowe-Harris fonctionne plutôt bien chacun dans leur registre. Le problème, c'est que très vite, on tombe dans une espèce de grand guignol, comme soulignait Télérama, et là, moi, j'accroche plus. C'est-à-dire que trop de sang, trop de violence, à un moment donné, m'éloigne de l'objet. Les 12 premières minutes du troisième épisode sont insupportables. Sans rien dévoiler, mais je trouve ça du coup insupportable et casse un petit peu le mystère que pouvait nous proposer cette île. Donc les références, elles sont là sans doute, mais l'histoire, elle, tient qu'à moitié.
Marjolaine qui a eu du mal à regarder cette série où on maltraite son petit Jude Law d'amour, comme ça il est couvert de boue et de sang, mais elle a tenu bon quand même parce que c'est une professionnelle aiguërie. Juste expliquez-nous pourquoi nous n'avons vu que 5 épisodes et pourquoi le 6e n'est pas encore disponible.
Alors, le 6e épisode, effectivement, sera tourné et diffusé en direct... parce qu'il s'appelle Automne. Entre l'été avec le lumineux formidable Jude Law et l'hiver avec Naomi Harris.
La formidable et lumineuse Naomi Harris.
Dont je suis moins fan dans cette série, beaucoup plus dans les James Bond. Il y aura un épisode diffusé, si ma mémoire est bonne, c'est tout début octobre, je pense le 3 octobre, mais à vérifier. Tourné et donc diffusé en direct sur HBO, dans cette petite île, avec, on ne sait pas si c'est Jude, Naomi, les deux, etc.
La grande question, est-ce que ça vaut la peine de l'attendre, cet épisode diffusé en direct, ou est-ce qu'au contraire, on aura un peu baissé les bras au bout de 2 ou 3 d'épisodes ?
Alors, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Benoît, décidément aujourd'hui, on est complètement en phase. C'est beaucoup d'effets. C'est comme l'épisode de Black Mirror sur Netflix qui avait été diffusé quasiment en temps réel. Évidemment, ça crée l'événement et c'est un des moyens pour HBO d'essayer de ramener de l'intérêt autour des séries qu'elle propose. Moi, très franchement, je suis pas du tout fan du gore, etc. Comme Benoît, ça me laisse pantoise et j'ai trouvé ça... En fait, assez grossier comme effet, cette île dont ils n'arrivent jamais à partir. On leur dit, ah, il vous reste 2 heures pour repartir. Et évidemment, ah, ben, on va faire pipi. Ah, ben, on va faire un truc. Ah, mais il nous reste du temps.
Courte,
et on n'y arrive jamais. C'est un peu facile. Très franchement, moi, j'ai regardé, et en particulier, donc, les 3 premiers épisodes, pour Jude Law et les paysages de cette île britannique. Le reste m'a laissé assez froide.
Alors justement, on parle d'une série cauchemardesque, mais ce serait un rêve pour Ariane Allard d'être bloquée sur une île avec Jude Law dont on ne peut pas s'échapper.
Ça c'est clair.
Elle remettrait de l'eau pour éviter que la marée ne soit basse.
Je viendrai le réconforter, car c'est un homme qui dit qu'il est lumineux, il est sombre de bout en bout, hein, quand même, Jude Law dans cette série. Même s'il est très charmant à regarder, c'est quand même un personnage tourmenté. Moi, franchement, j'ai été intriguée, déconcertée, et finalement, j'ai été happée. Et pourtant, je reconnais que d'emblée, quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, oh, il y a un petit peu de Lost, puis il y a un petit peu de Leftovers aussi, parce que c'est un personnage qui a du mal à vivre son deuil, en tout cas.
On s'arrête là.
Voilà, j'en dis pas davantage. Et puis au plus, je trouvais que toutes ces histoires de religieux, cultes, etc., étaient très américaines. Or, c'est quand même une île britannique. Tu as totalement raison sur la parabole brexitienne. Moi, je l'ai vue tout de suite. Et surtout, petit à petit.
C'est pas difficile, il n'y a pas une série actuelle britannique qui ne soit pas une parabole ou une métaphore du Brexit.
Mais si, des gens qui veulent absolument pas se rattacher au continent et qui, en plus, vivent sur un passé en disant, ils disent qu'ils sont le centre du monde quand même, ce qui est quand même cette espèce de nostalgie de l'Empire britannique, voilà, qui est encore aujourd'hui.
Non, mais parlez-moi de la série, donc, du scénario, de la mise en scène boursouflée.
Alors, je vais essayer. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, d'abord, c'est toutes ces références gothiques qui sont typiquement britanniques. Je suis désolée. Le roman gothique, c'est, et les sorcières, et toutes ces, et tout ce monde-là, ces visages inquiétants, ces accents inquiétants aussi.
On est d'accord. La mère, Wickerman, que j'ai cité dans mon résumé.
Et la deuxième chose
que
ça vaut la peine. Oui, bien sûr, puisque je l'ai dit dès le départ. Donc, ça vaut la peine parce que vous vous moquez de cette narration qui est très visuelle. Mais évidemment, on est dans le genre. Le gore, c'est une narration visuelle. On va pas non plus appuyer tout ça sur des dialogues. Bien sûr que c'est visuel. Moi, je trouve ça très beau. Je trouve qu'il y a des plans, ils jouent beaucoup sur les contrastes. Donc, il y a des plans qui sont rapprochés parce qu'évidemment, comme ce sont des gros plans, on cherche à cerner la psyché de ces gens qui sont totalement tourmentés. Et par ailleurs, il y a des très beaux plans, notamment un plan qui jalonne, qui ponctue sans arrêt le récit, qui est un plan en hauteur, un plan en plongée, qui montre cette route qui relie le continent à cette île très bizarre. C'est une route qui n'est ouverte qu'au moment des marées basses. Je trouve que ce plan, qui est un plan qui donne l'impression, qui est en fait très beau et très inquiétant, on a un sentiment en fait d'une espèce de point de vue omnipotent, d'espèce de dieu bizarre qui manipule, qui manœuvre les gens qui empruntent cette route. Moi, je trouve que visuellement, tout est dit, qu'il n'y a pas de dialogue et que cette série, elle fonctionne aussi pour cette raison-là.
Et surtout parce qu'il y a Jude Law. The Third Day sur OCS depuis le 15 septembre.
Are sticking to me and I can't quite see my walls. Started dreaming of a house with red carnations by the windows where he didn't feel so small, so overwhelmed by all his flaws. I know you can't let go of anything at the moment, just know it won't hurt so, won't hurt so much forever, won't hurt so much, won't hurt so much forever. At the moment, just know it won't hurt so, won't hurt so much forever, won't hurt so much, won't hurt so much forever, won't hurt so much, won't hurt so much. I know you can't let go of anything at the moment, just know it won't hurt so, won't hurt so much forever, won't hurt so much.
Arlo Parks, Hurt. Hurt, c'est le dernier titre paru à ce jour de la chanteuse londonienne. Une chanson faussement douce qui évoque les thématiques qui sont chères à cet artiste, la santé mentale, l'addiction et la misère dans laquelle vit une grande partie du monde, le tout baignant dans une mélopée où se retrouvent les influences de cette jeune femme, le jazz, le reggae et la musique nigérienne.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure de l'effet miroir version saison 2 où l'actualité racontée par une série, un épisode ou un personnage ou encore une scène culte. Alors que la Californie connaît de nouveaux incendies ravageurs en cette fin d'été, quel miroir nous tendent les séries sur ces catastrophes, cher Benoît?
Oui, les incendies touchent cette année encore la Californie. Une actualité malheureusement de plus en plus récurrente dans les JT, les chaînes d'information en continu. Ce qui explique pourquoi, dans la saison 1 du Morning Show, tout un épisode, le sixième, se concentrait même sur le traitement médiatique d'un tel événement. Je vous raconte, les deux stars de la matinale, Alex et Bradley, sont envoyés en Californie pour présenter en direct, au plus près de l'incendie, leur émission et sur place. Pendant qu'Alex s'intéresse au sauvetage de chiens pris dans les flammes, Bradley, ex-journaliste d'investigation, retrouve l'essence même de son métier de terrain et fait tout pour révéler comment de riches Américains payent des services de pompiers privés afin de défendre leur habitation. Le risque, c'est que c'est de dérégler tout le service de secours incendie, puisque les pompiers d'État sont parfois obligés d'intervenir pour secourir leurs collègues du privé pris dans les flammes. C'était un vrai sujet dans la presse en 2018, vous vous souvenez pas? Ça avait fait l'écho dans la presse parce que Kim Kardashian avait révélé avoir utilisé ses services pour protéger sa villa.
C'est vrai, je me souviens.
Voilà. Ouais. Et c'est ce que l'on appelle finalement dans une série, en effet, deux en un, ou comment la série, tout en poursuivant sa critique de l'infotainment, révèle ici les inégalités à l'œuvre dans la société américaine, et encore plus devant les catastrophes, en l'occurrence les incendies qui rongent la Californie. Une réalité qui touche l'Ouest américain depuis en réalité des décennies et qui avait d'ailleurs inspiré dans un tout autre esprit un épisode d'une série beaucoup plus ancienne, Les Aventures de...
Lassie, non mais c'est pas possible, vous n'êtes pas allé chercher Les Aventures de Lassie. Ça se tenait jusque-là, Benoît.
Non, vous allez voir, en 1965, en saison 12.
Lassie.
Oui, mais tenez-vous bien, en 65, la Lassie, saison 12, et la chaîne collée est désormais fidèle, amie, d'un garde forestier, Corey Stewart, et dans l'épisode Feu de forêt, alors que le feu grignote les collines et menace d'enflammer toute une vallée où un petit éleveur latino fait paître ses brebis, le ranger Corey, Lassie et leurs amis organisent la riposte afin de freiner l'incendie.
Hélicoptère 1, ici contrôle, à vous.
Hélicoptère numéro 1, parlez, Roger.
Vous savez que Carlos Aranzi est à présent dans la vallée juste à l'est de la crête des Mocassins?
Oui, je connais l'endroit.
Alors allez-y vite et dites à Carlos de commencer à évacuer ses moutons loin de là.
C'est grave à ce point-là?
Oui, si le vent continue à souffler si fort dans cette direction, le feu peut sauter la crête pour gagner la vallée, ça peut être dangereux. Et je me sentirais bien mieux si je sens qu'il est loin de là. 10, 4. Expédiez vite une équipe de sauvetage au périmètre sud. Joignez donc ces Indiens qui combattent si bien le feu, ceux de Lanza, et dites à Banning d'organiser le transport en autobus.
Bien d'accord.
Allez, monte, Malassie.
Et oui, Corey a bien raison de garder son ami avec lui. L'aide de Lassie, Xavier, sera précieuse pour sauver des flammes un petit agneau, pendant que les Canadaires et surtout les techniques amérindiennes feront le reste. Car Corey, au détour d'une phrase, révèle une information cruciale. Les Indiens combattent très bien le feu. Et c'est ce que rappelait un spécialiste de la physique des feux encore récemment dans la presse, Dominique Morvan, qui expliquait en réalité que depuis plus d'un siècle aux États-Unis, s'il y avait autant d'incendies, c'est que c'était la disparition des peuples amérindiens qui l'expliquait, entre autres parce qu'ils savaient dompter la nature américaine. Ils entretenaient les paysages, dit-il, et débroussaillaient les forêts pour permettre, par exemple, aux grands herbivores de rentrer dans la forêt, ce qui facilitait la tâche. Mais avec la colonisation européenne et le massacre des Indiens, la densité des arbres dans la forêt de l'Ouest américain a fortement augmenté, et les incendies avec. Et c'est ce que révélait finalement, au creux d'une phrase, la série Lassie en 1965. Moralité, Xavier, il ne manque plus qu'à rebooter Lassie, hein, car au vu de l'actualité, sous Trump, il y aurait de quoi montrer les crocs.
Allez, monte Lassie. Merci beaucoup, Benoît. L'effet miroir, une chronique à réécouter en podcast ou en rediffusion dans quelques heures, dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Et vous êtes bien dans une heure en série sur France Inter avec ce soir Marc Jeanneboutet, Ariane Alla et Benoît Laguen. Ils sont particulièrement en forme. Nous allons le constater à nouveau dans le troisième débat de la soirée, Un homme ordinaire, diffusé depuis le 15 septembre sur M6 et dont les deux derniers épisodes, que vous pourrez découvrir le 22 septembre, seront suivis d'un débat intitulé Un homme ordinaire, deux points, de la fiction à la réalité. Une mini-série de quatre épisodes très, très, très inspirée de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, Un fait divers qui passionne l'Hexagone. Les deux numéros du magazine Society consacrés à cette figure étrange se sont écoulés à plus de 280 000 exemplaires au total. C'est énorme vu l'état de la presse écrite actuellement. Un homme ordinaire raconte l'histoire de Christophe de Salins, suspecté d'avoir assassiné sa femme et leurs enfants et d'avoir dissimulé leur corps dans le fond du jardin de la demeure familiale. C'est très très proche quand même d'une réalité que nous connaissons. Quelques jours avant la tragédie, Christophe de Salins a été percuté par la voiture de Anna Rose, aqueuse de talent. Découvrant que cet homme avec lequel elle avait pris un café pour régler les détails de l'accident est le premier suspect de ce fait divers tragique, la jeune femme décide de mener l'enquête dans les limbes de l'internet, faisant ainsi remonter divers aspects de l'affaire et mettant en lumière des questions dont les réponses restent profondément tapies dans l'obscurité du doute et du mystère irrésolu.
Quel pied si on pouvait tous mourir demain ?
La police a trouvé l'horreur.
Regarde, ils sont tous morts. C'est dingue.
Tout le monde vous le dira. C'est un mari attentionné. Un père aimant.
Mais c'est qui ce type ? Il fait celui qui les aime et après il les tue.
Je peux disparaître du jour au lendemain aux Philippines pour 30 000 euros, t'as une mort parfaite.
On reprend ses faits et gestes un à un et on saura ce qu'il a fait et où il est.
Il faut absolument que je le coince.
Vous récoltez des éléments strictement réservés à la police dans une affaire gravissime avec un meurtrier en fuite.
Après les meurtres, il aura pu bénéficier de la complicité d'un ou plusieurs tiers.
Putain, qu'est-ce que tu cherches vraiment ? Je sens que c'est lui. J'en suis sûre.
Une série créée par Pierre Badel et Pierre Aknin et réalisée par ce dernier pour mémoire. Ce tandem avait entre autres signé la série Osmosis, diffusée sur Netflix, avec dans les deux rôles principaux Arnaud Ducret, alors très aux antipodes quand même de son personnage dans Divorce Club, la comédie lourdingue sortie cet été sur les écrans, ainsi que Émilie Dequesne, que l'on peut voir actuellement en salle dans le très beau film d'Emmanuel Moret, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Alors, cette énième greffe réalité-fiction, qui fait écho bien sûr à notre première série Laetitia, est-elle cette fois-ci pertinente et surtout convaincante, chère Marjolaine?
Eh bien, je vais sortir les crocs en hommage à la formidable chronique de Benoît, parce que d'abord, je pense que ça va être un carton d'audience, étant donné le succès de Society cet été. Un homme ordinaire, donc, a tous les défauts trop habituels d'une série française. C'est pas le bon angle, le scénario est scolaire et poussif, les situations sont surlignées. Et surtout, on l'a entendu dans l'extrait, les dialogues qui sont trop souvent involontairement comiques. Donc un exemple du premier épisode, Simon, donc le petit ami d'Anna Rose, qui ne semble exister que pour expliquer aux téléspectateurs et à elle-même ce qu'elle est en train de faire,
à peu près.
Explique à la mère de celle-ci que donc Anna Rose enquête sur Internet et donc qu'elle fait, et là on est dans la cité de la peur, du web slushing. La mère répète « Ah, du web slutting !» Bon, bref, donc on est vraiment dans la cité de la peur et Wall Street English, moment Wall Street English, ça se prononce en fait web sleuthing, mais personne ne le sait dans la série. Et l'accident qui débute la série, voilà, c'est vraiment là encore un artifice de scénario extrêmement lourd. Voilà, donc je trouve... Là encore, pour une série qui est censée se passer à la même époque, Laetitia, beaucoup plus crédible pour des tas de raisons.
Ariane, moi je n'étais pas contre sur le papier l'idée d'inventer un personnage de fiction pour raconter une histoire vraie, un fait divers et du coup équilibrer et ramener ce qu'on a quand même découvert sur Xavier Dupont-Ligonnès depuis effectivement la découverte du drame. Mais effectivement, ça ne fonctionne pas complètement. Ariane.
Alors, moi j'ai le sentiment, bon, je vais être honnête d'emblée comme ça, écarter tous les doutes, j'ai trouvé cette série atroce, mais j'ai essayé de réfléchir quand même parce que c'est quand même du travail, voilà, il y a un investissement d'écriture.
C'est du travail de réfléchir ou...
Voilà. Pour moi, c'est du travail aussi pour réfléchir. Donc j'ai pris le temps et je pense que plutôt de l'avoir appelé un homme ordinaire, il l'aurait appelé déjà présumé coupable. Je pense qu'on aurait été beaucoup plus dans la bonne direction. C'est-à-dire que j'ai rarement vu une série qui détestait autant son personnage principal. C'est-à-dire que c'est pas une série, c'est un procès. C'est-à-dire que le personnage, tout converge, aussi bien le fond que la forme, pour nous dire que c'est un sale mec, que c'est un manipulateur, que c'est un pervers narcissique, que c'est un criminel. Peut-être, je n'en sais rien, peut-être. Enfin, voilà, bon. Le problème, c'est qu'on est dans une série, c'est-à-dire dans une dramaturgie, et que ça ne peut pas fonctionner. Même le jeu des comédiens, Arnaud Ducreux, on en pense qu'on en veut. On voit la direction d'acteur, c'est qu'on dirait qu'on lui a demandé sans arrêt de jouer avec un visage un peu vide, une voix blanche, c'est-à-dire de sous-jouer. Et à force de sous-jouer de cette façon-là, ça devient totalement ostentatoire, c'est-à-dire que le paradoxe est hyper embarrassant. Moi, je voudrais faire une toute petite parenthèse sur Emily Deakin, qui est une comédienne que moi j'aime énormément, que j'ai découverte comme la plupart des gens grâce au cinéma des frères Dardenne. Ce qu'on lui fait faire, c'est dégueulasse. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'on on abîme cette comédienne. On a l'impression qu'elle est sous Prozac, du début jusqu'à la fin. Alors qu'en plus, son personnage, rien n'indique qu'elle devrait être somnambule comme ça, puisqu'elle a toutes les clés en main. C'est une aqueuse passionnée, qui a quand même un joli mec dans son lit, qui a une mère très sympa, qui a un appartement absolument charmant. Pourquoi joue-t-elle de cette façon dépressive du début jusqu'à la fin? Je vous parle même pas de la réalisation, avec des flashbacks, des flash-forwards, des effets de style qui sont là encore totalement ostentatoires. Moi, je trouve que franchement, cette série, elle est gênante.
Y aura-t-il un avocat de la défense à cette table, Benoît Lagan? Tous nos espoirs reposent sur vous.
Oui, un peu. Non, parce que je vous écoute toutes les deux et je suis assez d'accord sur ce que vous pointez hein, de ce qui ne va pas dans la série. Et pourtant, quand on l'a regardé comme moi, à un moment donné, je pensais arrêter ou très vite, et j'ai été pris par la machinerie. J'ai eu envie de savoir ce qui se passait. J'avais envie de savoir comment ils allaient inventé autour de cette histoire réelle, mais tellement improbable que du coup, on peut en accepter tous les codes de la fiction. Et je suis rentré finalement dedans. Il faut dire qu'on nous avait envoyé les trois premiers épisodes, que si on voulait voir le dernier quatrième, il fallait signer comme quoi on ne révélerait rien de ce que l'on découvrait dans le quatrième épisode. Écoutez-moi bien, M6, je ne révélerai rien de ce quatrième épisode. J'ai pu voir cet épisode parce que j'avais vraiment envie, en fait, de voir le quatrième épisode. J'avais vraiment envie de savoir comment ça se passait. Ensuite, je trouve que les deux comédiens, Arnaud Ducreux comme Emily Deakin, s'en sortent pas si mal dans cette mécanique-là. Par exemple, la chose la plus difficile pour moi, c'est que tout ce personnage de hackeuse tient dans le fait qu'elle doit envoyer des mails et lire des SMS. Et donc, forcément, vu que le téléspectateur peut pas forcément lire en permanence tout ce qu'il y a sur son écran, elle le dit. Soit elle le lit complètement, soit on entend sa voix en voix off, le fait qu'elle lise tout ça. Et tout ça, ça plombe un peu le récit. Et malgré tout, on a envie de savoir. Alors, bien évidemment, faut pas regarder cette série en essayant de comprendre un peu mieux le mystère autour du pont de Ligonnès.
Il n'y a
pas de mystère. Mais du coup, c'est une totale fiction.
Ah si, il reste un mystère, mais d'enfant, c'est où est-il? A-t-il vraiment commis tous ces crimes? Puisqu'il y a quand même des gens dans son entourage qui clament son innocence.
Non, mais la série dit qu'il est coupable du début jusqu'à la fin.
Oui, mais on est bien d'accord. En tout cas, c'était un homme ordinaire, largement assassiné quand même par nos chroniqueuses, et un peu défendu, mais avec beaucoup de pertinence, par notre chroniqueur Benoît Lagan, et c'est sur M6.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphore au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho? Où subsiste encore ton écho? J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. kilomètres de viande. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulous, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'enfants au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
La nuit, je mens par Alain Bachung, qui est encore un fantasme d'Ariane Alard. C'est un petit peu plus compliqué à concrétiser. Sans doute une des plus belles chansons du répertoire français, ouais. Non seulement de Bachung, mais du répertoire vraiment de la chanson française. Extrait de l'album Fantaisie militaire, paru en 1998. Magnifique. L'histoire d'un homme qui s'invente une légende pour retenir un amour qui s'en va. Déjà, je trouve ça juste magnifique. Il disait à l'époque, ça me plaît d'arriver à l'émotion sans explication. Les explications de nos vies en sont pleines. Notre quotidien est un parcours fléché et en même temps, on ne comprend pas comment ça marche. Mais de temps en temps, l'art et la musique peuvent nous y aider. Alain Bachung, la nuit, je mens.
France Inter. Une heure en série.
Voilà, vous avez évidemment reconnu le générique de Chapeau Melon et Bottes de Cuir, sacré l'année dernière, meilleure série de tous les temps par les éminences grises de cette émission. Nous n'avions pas eu le temps de rendre hommage à Diane Arrigue la semaine dernière, parce que nous avions déjà enregistré l'émission. Du coup, eh bien, je vous offre le plateau télé pour rendre hommage à cette immense comédienne qui a incarné Emma Peel comme personne, mais heureusement, plein d'autres personnages, plein d'autres rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma. Donc, je vous ai tous et toutes demandé peut-être de me citer l'épisode que vous préférez de Diane Arrigue dans le personnage d'Emma Peel. Et on va commencer par Benoît.
Oui, moi c'est le village de la mort qui a été diffusé en novembre 67 pour la première fois et que j'ai découvert assez tard, moi, j'étais pas né hein, en 67, que je trouve un très bel épisode par rapport à Diane Arrigue, parce que c'est vraiment un show Diane Arrigue. Elle est toute seule quasiment dans l'épisode, on voit John Steed 5 minutes au départ.
Elle est prisonnière dans un cercle d'un village étrange.
Elle est prisonnière dans un village étrange parce qu'elle accompagne un ami, Paul Croft, sur place, et son majordome se fait tuer, lui disparaît, et en fait on découvre qu'on est dans un village où les gens s'ennuient tellement entre une bière et un jeu de domino qu'ils tuent les visiteurs du village, sauf qu'ils tombent sur Emma Peel, Diane Arrigue, et ça, et forcément ça finit mal
pour très mauvais choix pour eux. Marjolaine, vous vous souvenez de Mission très improbable?
Oui, le dernier épisode de la saison 5, Moi, ce que j'aime beaucoup dans le personnage d'Emma Peel, c'est évidemment son jeu et les sous-entendus avec John Steed. Et donc, dans cet épisode-là, John Steed se retrouve rétréci par un rayon laser et elle lui demande avec le regard qui frise si tout est à l'échelle. Et évidemment, ça est le générique de la série de façon générale avec tous les deux. Je trouve ça merveilleux.
Avec cette bouteille de champagne très phallique et très évocatrice. Voilà. Je vous propose d'écouter un tout petit peu la voix de Diana Reeves, justement, volontiers, dans le personnage d'Emma Peel, dans ce qui a été en fait le véritable dernier épisode, qui est Ne m'oubliez pas, le premier de la série avec Tara King, dans lequel elle quitte John Steed, elle cède le relais à sa future collègue, et c'est juste absolument magnifique. On l'écoute très différemment aujourd'hui, évidemment.
Always keep your bowler on in times of stress. And watch out for diabolical mastermind.
I'll remember.
Goodbye, Steve.
Emma.
Merci Emma, merci Diana Rigg d'avoir enchanté notre enfance, notre adolescence et encore aujourd'hui. Ariane, quel est votre épisode préféré ?
Alors moi j'ai pris l'épisode qui s'intitule Meurtre Caméra en français ou Epic en anglais. Ça fait partie également de la saison 5. Bon, je l'ai choisi bien sûr parce que voilà, ça raconte l'enlèvement d'Emma Peel par un cinéaste teuton qui est calqué sur Erich von Stroheim.
C'est Snake von Schneck !
Voilà, c'est-à-dire un pionnier du cinéma muet hein, en gros. Donc ce cinéaste légèrement excentrique, projette de réaliser un film dénommé La Destruction d'Emma Peel. Donc en gros, c'est une espèce de snuff movie hein, qu'il veut réaliser avec elle. Et autant dire, pour moi et pour tous les spectateurs, que c'est une parodie extrêmement savoureuse d'Hollywood, que c'est jalonné de clins d'œil, de mise en abîme, de rapports entre le vrai et le faux, puisque ça a été tourné dans un studio. En l'occurrence, le studio même où était tournée la série, qui sont les studios Elstree. Voilà. Et par ailleurs, comme Benoît, c'est un épisode qui met énormément en valeur Emma Peel, puisque John Steed arrive, je crois, à la 38e minute, et qu'il y a très peu de personnages qui jouent tous plusieurs rôles à la fois, puisqu'on est dans un film, sauf elle, qui reste la même, sa force tranquille, son charme rayonnant d'intelligence. Moi, je comprends pourquoi cette femme a été quand même un modèle pour les jeunes filles des années 60 et 70. Je pense que c'est très important de le rappeler.
Et même les jeunes filles de plus sûr. Tard.
Alors, ce modèle de force tranquille, s'il me reste 17 secondes pour recommander un épisode, on le voit également dans un épisode de la saison précédente noir et blanc qui s'appelle L'héritage diabolique, où elle hérite d'une maison, mais elle ne sait pas que c'est un piège qui va se refermer sur elle. Et donc Emma Peel est toute seule, perdue dans un labyrinthe extrêmement inquiétant, une maison qui tourne sur elle-même. Quand vous ouvrez une porte, et bien ça n'est plus la pièce que vous venez de quitter. C'est terriblement inquiétant, et ça se termine dans un sommet de fétichisme qui était quand même effectivement un des traits caractéristiques de la série. On se quitte juste en écoutant un extrait de dialogue de Game of Thrones, la série dans laquelle elle avait joué il y a quelques années, et c'est juste bouleversant.
Vous pourriez avoir la décence de vous redresser quand vous parlez à une grande dame.
Et vous, celle de vous agenouiller humblement devant les dieux.
Ne mesure pas, moi, mon petit bonhomme.
Moi, c'est les genoux. Et vous ?
Les hanches.
Ah.
Ne croyez pas que c'est facile de sortir avec Emma Peel, elle castagne comme d'autres dansent. Tu fais pas un round sur le ring, va savoir ce qu'elle manigance alors qu'elle tricote du legging, jaune vif ou rouge vermillon, elle a toutes les combinaisons. C'est un extrait d'une chanson qui s'intitule « Tout pour ma série », écrite par Nicolas Contant, mais connu sous le nom de scène de Dessus, et qui rend donc hommage dans cette chanson à Emma Peel, Diana Rigg. Vous retrouverez tous les détails de cette chanson sur notre site, évidemment. Une heure en série, c'est fini. Merci beaucoup d'y avoir participé. Mille merci à Ariane Allard, Marjolaine Boutet et Benoît Lagane d'avoir été comme toujours brillants. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir écouté. Nous vous avons recommandé ou pas cette semaine Laetitia, oui grandement, The Third Day de façon un petit peu plus mesurée et beaucoup moins Un homme ordinaire sur M6. La semaine prochaine, nous évoquerons Kidnapping sur Arte avec Charlotte Rampling qui avait failli interpréter Emma Peel, le saviez-vous? Et ben voilà, je vous apprends quelque chose. Wretched sur Netflix. Rendez-vous bien évidemment demain à 20h avec Jérôme Garcin et ses chroniqueurs pour un masque et la plume consacré au cinéma. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast et en rediffusion dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin pour les couches-tard ou les lève-tôt. Vous pouvez nous retrouver également sur le site internet, nous envoyer du courrier. Une heure en série, une émission réalisée comme toujours et comme personne par Marie-Annick Rimbaud. La programmation musicale était assurée par Muriel Pérez et préparée avec Amel Caldi. À la technique ce soir, Donatien Cahu et Ronan May.